écoutez CFM, c'est une émission spéciale que vous retrouvez maintenant, Politiquement Votre, avec Kader Youb. Bonsoir Kader.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir à tous. Merci d'être fidèle à Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio, cette émission diffusée aussi en direct du Facebook Live de CFM Radio. Avec nous aujourd'hui, Antoine Maurice, chef de file de la liste Occitanie naturellement soutenue par Europe Écologie Les Verts et qui se lance dans la bataille des régionales. Bonjour Antoine Maurice.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur CFM Radio.
Merci pour votre accueil.
Vous êtes né à Toulouse, Antoine Maurice, mais vous aimez rappeler que vous avez grandi dans le Gers. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit social et d'un DESS en gestion du personnel. Vous adhérez au Parti Les Verts à l'âge de 18 ans. Le souci de l'autre, les combats contre les discriminations et la conscience qu'un monde meilleur était à construire m'habitent depuis l'enfance. Adhérer à un parti politique rendait les choses possibles. C'est ce que vous écrivez à propos de vous. Vous êtes élu pour la première fois en 2008 à la mairie de Toulouse dans la majorité constituée autour du socialiste Pierre Cohen. Et dès 2014, vous vous lancez vous-même à la conquête du Capitole. Aux dernières élections municipales de 2020, vous sautez à nouveau le pas en vous lançant une seconde fois comme tête de liste avec un contexte favorable au mouvement politique écologiste et en initiant un mouvement intitulé Archipel Citoyen qui regroupe des citoyens et des partis politiques Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise notamment et d'autres encore. Vous arrivez en seconde position à l'issue du premier tour avant de finalement perdre la bataille du Capitole au profit de Jean-Luc Moudenc. La déception est immense, totale, cruelle même, si je puis dire, pour vous et votre liste, quand plusieurs sondages vous donnaient vainqueur au second tour et alors que d'autres grandes villes, d'autres grandes agglomérations comme Bordeaux, Lyon et Strasbourg avaient, elles, basculé en vert. Une première question sur ce résultat des municipales. On dit souvent, Antoine Maurice, que l'on apprend dans les défaites. Est-ce que celle-ci, elle vous a appris quelque chose, et notamment dans le cas des régionales?
Elle m'a juste appris, en effet, qu'un combat n'est jamais gagné. J'en avais la conviction, et malgré des sondages favorables, je savais que cette bataille était difficile parce que le contexte toulousain est particulier, parce qu'aussi les conditions du rassemblement n'ont pas été aussi favorables que l'on aurait espéré. Et donc, en effet, on apprend toujours d'une défaite, on apprend en tout cas l'humilité. Mais moi, cela m'a renforcé aussi dans la détermination d'être utile à l'écologie parce que le temps presse. Et c'est ça le sens de mon engagement dans ces régionales, c'est de me dire je ne peux pas attendre pour agir pour l'écologie. On a moins de 10 ans, ce sont les scientifiques qui le disent, pour changer les choses. Donc les mandats qui s'ouvrent, ce sont les mandats d'un réel changement écologiste ou pas. Et au régional, on peut vraiment agir et c'est pourquoi je mène aujourd'hui cette liste qui rassemble tous les écologistes.
On va en parler de votre programme, de vos projets pour la région Occitanie. Une question, dans beaucoup de régions, le Front National pourrait virer en tête au soir du premier tour. Quel est votre sentiment à ce sujet, sur ce vote-là?
Je pense qu'en effet, le Rassemblement National reste un vote important et en effet, un vote qui est beaucoup choisi. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de proposer un autre chemin, en fait, aux habitantes et aux habitants de l'Occitanie. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les trois grands pôles, il y a un pôle, effectivement, vers le passé qu'incarne l'extrême droite, qui, lui, idéalise un passé, mais nous ramène aux pires heures de notre histoire. Il y a aussi ce pôle qui nous englue dans le présent, des forces libérales qui disent en gros qu'on est dans le monde tel qu'il est, qu'on ne peut pas le changer, il faut faire avec. Et il y a l'avenir. Et moi, je veux incarner ce pôle d'avenir autour de l'écologie, c'est-à-dire donner une nouvelle espérance et proposer une autre politique globale, cohérente, qui permette vraiment de changer la vie en mieux. Et c'est le sens du projet qu'on propose et qui, de mon point de vue, est aussi une manière de répondre aux idées de l'extrême droite.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'à la fin, finalement, ce ne soit que sur des thématiques nationales que le scrutin se joue, des thématiques qui n'entrent pas forcément dans le champ de compétences de la région, mais finalement, on donnerait finalement à ceux qui crient le plus fort.
Ben, c'est surtout si on n'a pas un projet clair et des idées. Moi, je suis parti en campagne depuis 6 mois et j'ai proposé effectivement progressivement des éléments du projet que nous présentons aux habitants et c'est cela qui nous a rassemblés. Et j'observe en effet que dans les autres listes, on a parfois du mal à voir la vision, le cap et les propositions concrètes. En tous les cas, autour de la liste Occitanie naturellement, nous avons un projet, c'est l'écologie qui peut répondre de notre point de vue aux enjeux à la fois sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques à la sortie d'une crise sanitaire qui a révélé quand même la crise écologique et l'impact gravissime qu'elle a sur nos vies, mais aussi sur nos emplois, sur notre économie.
Alors vous avez cité le rassemblement autour de vous. Pourquoi, finalement, n'avoir pas négocié, dès le premier tour, une liste aux communes avec Carole Delga ou Myriam Martin ?
C'est pas autour de moi, justement, c'est autour d'un projet.
Et mais pour autour moi, de votre projet, par
oui,
exemple.
Oui, mais parce que pour moi, le sujet, c'est ça. Et nous, nous avons mis sur la table un projet, l'écologie, en étant convaincus que c'est le plus en capacité de rassembler. D'ailleurs, j'observe que nous avons été approchés par à la fois des socialistes, oui, la France Insoumise.
Myriam Martin nous le disait ici à mais, cette même place,
donc,
jeudi
déjà,
dernier.
Elle
vous a proposé de fusionner, enfin de construire un rassemblement autour de la France Insoumise et d'Europe Écologie Le Vert, en vous offrant la tête de liste. Et vous l'auriez refusé.
Mais le sujet, c'est pas celui-là, justement. C'est le projet et la clarté de ce que l'on veut proposer. Parce que moi, je crois que c'est cette clarté qui rassemble et que c'est l'ambiguïté qui divise. Nous, nous sommes clairs à la fois sur le projet que nous voulons présenter. L'élection régionale, c'est une élection à deux tours. Le premier tour, c'est le temps de l'affirmation des projets. Le second tour, c'est le temps d'un rassemblement plus large pour construire une majorité. Et moi, je crois que on doit être clair sur ces deux sujets. Et j'observe que nous sommes la seule liste aujourd'hui qui, à la fois, dit clairement le projet qu'elle propose au premier tour et sa volonté de rassembler au second tour l'arc humaniste, parce que nous sommes clairs que nous voulons battre d'abord l'extrême droite, qui est évidemment le premier adversaire dans cette élection.
Votre adversaire principal ?
C'est notre premier adversaire, c'est clair, et nous pensons même que l'écologie, c'est probablement la réponse la plus opposée en termes de vision du monde et de réponse à amener par rapport aux enjeux à la fois écologiques, socio-économiques, par rapport à celle du Rassemblement National, qui eux divisent les gens, essayent de vouloir replier le pays, quand nous parions justement sur le dialogue, la rencontre, sur les richesses qu'amènent les uns les autres, et sur aussi l'ouverture au monde, par exemple autour de l'euro-région. On est, nous, l'Occitanie, à côté de la Catalogne, tournée vers Barcelone, et c'est d'ailleurs une de nos priorités, c'est comment on connecte notre région entre elles, et comment on la connecte aussi vers l'Espagne, avec qui nous avons beaucoup à faire dans l'euro-région.
Au soir du premier tour, il y aura une négociation, vraisemblablement, c'est en tout cas ce que vous laissez les envisager. Quels sont les points essentiels que vous voudriez reprendre dans le programme commun ?
Nous avons dans cette campagne commencé d'abord sur l'enjeu de prendre soin, puisqu'on l'a vu avec la crise sanitaire, la santé c'est un enjeu majeur, et nous pensons que la région, par ses compétences actuelles, peut déjà agir notamment sur la pollution de l'air. Il faut savoir quand même que la pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité aujourd'hui.
On a présenté un grand plan régional
pour la qualité de l'air en agissant à la fois.
Il y aura des totems, des sujets que vous voudrez absolument, par exemple la LGV, est-ce que ça sera un motif de casus belli entre vous et Carole Delga, par exemple.
Nous n'avons pas des totems, mais nous avons de la cohérence. C'est-à-dire, nous voulons que toutes les politiques régionales aujourd'hui prennent en compte l'impact positif ou neutre sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé et pour la justice sociale. Nous, c'est ça notre cap, et c'est autour de ça que nous discuterons le moment venu. Mais c'est d'abord cela qu'on propose aux habitants, si vous me le permettez. Et donc, moi, je pense que l'enjeu, c'est d'abord que la démocratie s'exprime. Et je crois que ce projet, c'est le plus à même de répondre aux enjeux, mais aussi de rassembler au premier comme au second tour.
Quel bilan faites-vous de la mandature de Carole Delga ?
C'est un bilan avec des aspects positifs et négatifs, qui est le résultat d'un accord de mandature qui était celui de 2015. On avait présenté une liste écologiste en 2015 et on a construit un accord de mandature sur la base des résultats du premier tour. Donc c'est vrai qu'on a fait avancer des sujets et on en est satisfait, comme les états généraux du rail et de l'intermodalité qui ont permis d'avancer, de donner un nouveau souffle sur le développement du train, comme la création de l'Agence régionale de biodiversité, comme des premières actions sur les énergies renouvelables qui vont dans le bon sens. Mais ce qu'on observe aussi, c'est un peu le « en même temps ». Par exemple, sur l'agriculture, à la fois on a soutenu un peu l'agriculture bio, mais on continue beaucoup à poursuivre un modèle agricole qui est à bout de souffle, qui pressurise les paysans, qui les met en situation à la fois de difficultés économiques, de risques sanitaires pour eux-mêmes et bien sûr dans la manière de produire. Et nous, nous proposons d'accompagner au contraire une transition claire de l'agriculture et que donc toutes les politiques régionales aillent dans ce sens vers l'agroécologie. Sur l'économie, c'est aussi un exemple où il y a eu...
Restons sur la stratégie, si vous permettez, mais je vous promets qu'on va aborder tous ces sujets, le climat, les transports, l'économie, la formation et l'agriculture. Mais restons sur l'aspect stratégique, politique, si vous permettez, et on en conclura avec. Au sort du premier tour, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait à la fois la France insoumise et le Parti socialiste qui œuvrent avec vous, bien sûr, pour une liste commune.
Au soir du premier tour, je souhaiterais un rassemblement le plus large possible.
Y compris avec la liste de Myriam Martin.
Avec toutes les forces qui souhaiteront construire un contrat de gouvernance et pour construire une majorité. Et c'est à chacune et chacun de se déterminer. Moi, je suis clair sur cette volonté, mais c'est aux autres de dire ce qu'ils souhaitent. Moi, je pense qu'il faut un rassemblement large de l'arc humaniste pour amener une majorité forte et claire pour répondre aux enjeux de notre temps. Et ma conviction, c'est que ce rassemblement, il se fera autour de l'écologie et du projet de l'Occitanie naturellement.
Alors, sur vos projets, un mot sur les transports, question cruciale s'il en est. Quelle est votre stratégie, justement? Quel est votre projet en termes de transport, de connexion, de multimodalité?
Le constat qu'on fait d'abord, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des habitants de notre région ont la contrainte de la voiture individuelle. Oui. Dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'autre solution.
Avec des embouteillages qui se...
Avec des embouteillages, notamment dans les métropoles, mais pas que. On voit de plus en plus d'embouteillages. Et donc la région, pour moi, dans son rôle, bien sûr, d'autorité organisatrice avec la compétence ferroviaire, mais aussi dans cette optique de coordination, doit faire en sorte d'amener une solution pour chaque déplacement en utilisant toutes les alternatives à la voiture individuelle. Et pour nous, il y a différents leviers. Il y a bien sûr le train, d'abord, en partant des besoins des habitants, hein, bien sûr, toujours. Le train, donc, développer les lignes, bien sûr, ferroviaires.
Le RER Toulousain. Intensifier le réseau.
Intensifier le réseau autour des lignes dans les différents départements. Le RER Toulousain, le tram-train à Montpellier, le long du littoral. Mais aussi la voiture en commun, c'est-à-dire comment aujourd'hui on fait en sorte aussi, à certains endroits, de développer le covoiturage, l'autopartage, etc. Et aussi les modes doux, parce que moi, je ne pense pas que le vélo est réservé aux habitants des centres-villes urbains. Aujourd'hui, il faut que les routes aussi soient aménagées pour permettre d'avoir des pistes cyclables sécurisées, parce que c'est aussi un moyen de connecter.
C'est de la compétence des conseils départementaux.
Alors notamment. Oui, mais la région, ce qu'on veut, nous, c'est qu'elle contractualise avec autres collectivités pour construire les réponses adaptées à chaque territoire. Et c'est pour ça que je cite les différents de la palette, finalement, des solutions, et de faire en sorte qu'on puisse, à partir des besoins des habitants, amener les bonnes réponses entre tram, bus, voiture en commun, pistes cyclables, et de pouvoir aussi connecter l'ensemble autour de ce que nous, on a appelé les cœurs de mobilité, c'est-à-dire autour des gares, autour de centres des villes et villages, proposer l'ensemble de ces services qui permettent de connecter les trains ou les bus à de la voiture partagée, à des services vélo, etc.
Est-ce que vous avez été sollicité par l'association Montavélo, une association d'ici, Montavélo, qui s'occupe? Est-ce que vous avez, ils vont solliciter toutes les têtes de liste pour un grand nombre de propositions qu'ils font sur les pistes cyclables et sur l'usage du vélo? Est-ce que vous répondrez favorablement à leurs requêtes?
Alors d'abord, on répond à toutes les sollicitations et en l'occurrence, nous rencontrons tout à l'heure avec les candidats de la liste régionale et aussi les candidats au départemental, cette association, pour discuter justement de ce que l'on peut apporter. Et la région, de notre point de vue, doit s'impliquer davantage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le schéma des véloroutes a été réalisé à peine à 40%. On est l'avant-dernière région de France à développer le schéma véloroute. Nous croyons que le vélo, ça fait partie des solutions.
Antoine Maurice, on se retrouve dans quelques instants, le temps de marquer une courte pause.
À Villebourbon, beau soleil comme à Falguière. Vous écoutez CFM Montauban. 1, 2, 3, partez! Découvrez la gamme Honda électrique et hybride chez votre concessionnaire Honda Montauban à partir de 16 990 euros avec la garantie Honda jusqu'à 10 ans. Honda parie sur l'avenir. Et vous? Garantie moteur sous réserve de suivi de l'entretien Honda selon les préconisations constructeurs et indications ordinateur de bord. Jazz hybride à partir de 16 990 euros. Déduction faite de 1 500 euros de prime Honda, 2 000 euros d'aide à la reprise et de 3 000 euros de prime à la conversion gouvernementale. Offre valable jusqu'au 30 juin, soumise à condition. Votre concession Honda, chemin de Gimbelet à Montauban.
Vous êtes sur le territoire du Rocamadour, ce petit fromage de chèvre tendre et doux. Dégustez-le et rendez-vous chez nos producteurs pour découvrir les secrets du petit Rocamadour. Pour en savoir plus, connectez-vous sur aop-rocamadour.com et retrouvez toutes les adresses de nos producteurs. Petit chèvre tendre et doux, Rocamadour, complètement fondant.
Bien manger, c'est important. Depuis 10 ans, Midi-Quercy, les producteurs, restaurateurs, acteurs touristiques, commerçants locaux, transformateurs, associations, métiers de bouche et même collectivités se sont engagés pour développer et encourager la consommation des produits de notre terroir. Des bons produits bien de chez nous. Et oui, on est chauvin et on assume. Consultez le tout nouveau, tout beau annuaire des 130 signataires de la charte produits en Midi-Quercy en ligne sur paysmidiquercy.fr et bientôt dans les offices de tourisme et mairies du pays Midi-Quercy.
Vous souhaitez connaître les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans votre projet de rénovation? Vous voulez adapter votre maison pour un meilleur confort thermique et réduire vos consommations d'énergie? Les architectes et conseillers énergie du CAUE 82 vous invitent autour d'un exposé débat le mardi 8 juin à 18h30 à la CAPEB de Montauban pour échanger sur ces sujets. Les thèmes de l'isolation, humidité, ventilation, chauffage, santé et esthétique seront abordés avec des cas pratiques au cours de ce café climat. Renseignements au 05 63 03 80 88.
Écoutez et réécoutez. CFM Montauban sur cfmradio.fr.
Politiquement vôtre avec Antoine Maurice, tête de liste L'Occitanie, naturellement. Antoine Maurice, on reste encore sur le sujet des transports. Concernant la LGV Toulouse-Paris, quelle est votre position? Ça, c'est un projet que vous ne soutenez pas, clairement.
Je dis depuis longtemps, et les constats sont là, ça fait 30 ans qu'on nous promet cette nouvelle ligne qui n'arrive jamais.
C'est
et
moi, aujourd'hui, le dossier avancé, il y a quelques
jours. Ah non, il n'y a rien qui avance, il y a une lettre du Premier ministre, une nouvelle lettre d'intention, toujours pas d'argent noté dans la loi, toujours pas de cofinancement acté des collectivités, donc moi je dis ça reste un mirage, et surtout, moi je suis candidat justement pour être président de la région Occitanie, moi mon souci c'est pas de connecter 3 heures Toulouse à Paris, aujourd'hui c'est de connecter Toulouse à Montpellier en une heure et de connecter Toulouse et Montpellier à Perpignan et à Barcelone parce que l'enjeu c'est de faire région d'abord. Mais et en tant que président de région, je souhaite qu'on puisse rapprocher nos deux métropoles.
Mais s'il y a l'argent, monsieur Maurice,
est-ce que moi je dis qu'il n'y a pas l'argent et la priorité c'est la.
Mais non, c'est l'argent.
Mais moi je ne fais pas des hypothèses. Je vous dis ça. Je veux un discours de vérité.
Carole Delga à Montauban, il y a quelques jours, a annoncé qu'elle ne transigerait pas sur LGV.
Mais on peut ne pas transiger sur des choses qui sont des bouts de papier. Mais moi, je dis, il faut dire la vérité aux habitants. Aujourd'hui, ce financement n'est pas acté. Et par ailleurs, vis-à-vis de l'État, moi, je souhaite qu'on se batte pour la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan vers Barcelone, qui est notre priorité et qui est indispensable puisqu'elle est submersible aujourd'hui, comme chacun sait. On est obligé de préparer l'avenir. Donc, c'est notre priorité. Et l'autre priorité pour nous, c'est de connecter Toulouse d'abord à Montpellier. Et je souhaite que Toulouse-Montpellier soit connecté en une heure.
Alors, Montpellier-Toulouse est connecté. Il y a l'argent pour la LGV. Est-ce que, finalement, vous acceptez ce projet?
Nous ne l'acceptons pas parce que, je redis, je ne crois pas du tout. Personne n'est capable de nous donner le financement et c'est à ceux qui le défendent de faire la démonstration qu'elle est financée. Ça n'est pas le cas. Et par ailleurs, aujourd'hui, ce projet de nouvelle ligne, au-delà des aménagements ferroviaires du Nord toulousain que nous défendons, y compris pour le RER toulousain, nous pensons que ça détruit énormément d'espaces agricoles et naturels et que ça, c'est un projet aujourd'hui qui est en dehors des enjeux et de l'urgence climatique et de préservation de la biodiversité qui est indispensable pour notre survie. Donc par ailleurs, l'impact écologique de toute façon est considérable. Mais je redis qu'au-delà de ça, c'est un discours de vérité qu'il faut tenir aux habitants. Celles et ceux qui la promettent depuis 30 ans ne sont toujours pas capables de la financer. Il est temps de se focaliser d'abord sur la connexion, l'amélioration de Toulouse-Montpellier et cette nouvelle ligne Montpellier-Perpignan.
On a compris. C'est ce que vous direz à Carole Delga.
Et c'est ce que nous dirons d'abord aux habitants et au soir du premier tour. L'espoir, c'est que c'est autour de ce projet que le rassemblement se fera.
Sur le tourisme, Antoine Maurice, notre région, Occitanie, la quatrième région de France en termes de fréquentation pour des recettes qui se chiffrent en milliards d'euros. Sauf que la question du tourisme pose aussi un point de vue, se pose aussi d'un point de vue environnemental. Faut-il ralentir le tourisme en Occitanie?
Il ne faut pas le ralentir, il faut le penser différemment. C'est comme toutes les politiques, il faut anticiper et gérer un tourisme durable. On a plusieurs problématiques, c'est évidemment la surfréquentation de certains espaces. On a aussi la problématique en montagne des sports d'hiver, comme on l'a vécu encore cet hiver, des stations de ski. Donc nous défendons un tourisme plus équitable, plus durable et aussi des quatre saisons. C'est-à-dire qu'il faut penser un tourisme différent tout le long de l'année pour proposer des activités aussi différentes qui permettent d'anticiper des effets déjà visibles du dérèglement climatique d'une part, et puis sortir d'une logique peut-être d'un tourisme de masse autour de quelques sites et notamment des grands sites, parce que nous ne voulons pas non plus d'un tourisme qui ne soit pas dans des villes vivantes. C'est-à-dire que moi je ne me satisfais pas que Saint-Cyr-la-Paupique est un lieu magnifique et aujourd'hui 15 habitants. Je ne veux pas de ville-musée. Moi, j'ai envie qu'on visite une région de ville qui vit, de territoires qui vivent. Et il y a des paysages, des lieux, une histoire extraordinaire dans notre région à valoriser. Donc, je souhaite que la région, elle puisse mieux faire connaître cette richesse et diversité. Alors, pour avoir un tourisme plus, on va dire, oui, vertueux, et puis réparti dans l'ensemble de la région, et qui permette à la fois de valoriser tous nos territoires et de moins subir les effets d'un tourisme de masse, en travaillant aussi, comme je le disais, ce tourisme 4 saisons qui permet de diversifier l'offre touristique.
Alors, je le disais en introduction, les idées écologistes, on le vend en poupe. Or, l'imaginaire écologiste n'est pas toujours tendre avec l'industrie, parfois associée à un productivisme anti-écologique. On a vu comment Airbus avait été malmené ces derniers mois pour cause de crise sanitaire. Mmh. Faut-il réfléchir d'ores et déjà à une nouvelle industrie pour la région, selon vous, Antoine Maurice?
D'abord, le constat, c'est que la crise que peut subir aujourd'hui l'aéronautique, ce n'est pas lié à des politiques écologistes, puisque nous ne sommes pas en responsabilité. Donc, c'est bien la preuve que le manque d'anticipation aujourd'hui fait peser un risque considérable sur nos industries, et notamment l'aéronautique. Nous, ce que nous disons, c'est que nous proposons qu'on propose un grand plan, justement, de mutation industrielle sur plusieurs axes. Le premier, c'est bien sûr, et beaucoup le disent, la recherche et développement, pour voir comment cette industrie peut être plus vertueuse sur le plan écologique, dans les carburants, mais aussi dans le recyclage. Je veux saluer qu'on ait dans notre région l'entreprise mondiale, leader mondial dans le recyclage des avions, et ça peut être un levier aussi de développement de cette industrie. Mais ensuite, de travailler sur deux axes que sont la diversification industrielle, c'est-à-dire comment les compétences aujourd'hui utilisées dans l'aéronautique pourraient servir d'autres productions industrielles, dans les mobilités ferroviaires, dans le vélo, dans la santé aussi, l'industrie de la santé. Et les salariés, on commence à y travailler. Il ne faut pas croire qu'aussi les écologistes soient seuls à penser cette évolution. Les salariés qui s'inquiètent pour leur avenir légitimement travaillent déjà à des diversifications industrielles. Et enfin, un troisième axe, c'est évidemment comment aussi on accompagne une certaine reconversion pour ne pas regarder des désastres annoncés.
Voilà, justement, des menaces et des désastres sur l'emploi, des plans sociaux qui se multiplient à Rodez, chez Bosch, avec des menaces sur des emplois. Bosch, c'est quand même le premier employeur du département de l'Aveyron. Que peut faire la région, justement? L'État ne peut rien, alors que peut faire une région?
Justement, moi je crois qu'il faut sortir de ce discours de l'impuissance publique. Le constat qu'on peut faire de Bosch, c'est que les industriels seuls n'anticipent pas, par exemple, les enjeux de la transition écologique. Parce que Bosch ne peut pas découvrir aujourd'hui qu'il y a des réglementations européennes autour du diesel qu'il fallait sortir de cette spécialisation unique autour uniquement des voitures diesel. Et c'est la même chose pour tout. Il faut, en fait, la biodiversité, finalement, il faut peut-être la penser sur l'aspect économique. Il faut sortir des industries spécialisées pour avoir de la diversification qui permet justement d'ajuster au moment des crises ou des évolutions possibles. Et la région, elle peut agir avec l'État. Et moi, je propose notamment qu'au travers du contrat de plan État-région qui est en train d'être discuté, nous puissions mettre sur la table cette mutation industrielle et qu'on pousse l'État avec la région à ce que les aides publiques soient d'abord conditionnées, bien sûr, au refus des licenciements financiers.
Vous les conditionnez, les aides aux entreprises ?
Oui, évidemment. Il faut refuser de donner des aides économiques aux entreprises qui licencient dans des licenciements financiers, et aussi conditionner justement au maintien d'emplois et aux transformations et aux mutations avec des critères environnementaux, les aides que donne évidemment la collectivité. Donc c'est le sens des propositions.
Est-ce que vous poursuivrez tout de même les dispositifs d'aide aux entreprises?
Bien sûr. Oui. Le sujet, ce n'est pas de ne pas aider les entreprises, c'est de conditionner les aides publiques. Elles servent l'intérêt général. L'intérêt général, aujourd'hui, c'est de développer des emplois qui ont du sens et qui permettent de préserver la biodiversité et le climat dont nous avons besoin, parce que c'est une question de vie.
Beaucoup d'acteurs s'occupent du développement économique de l'emploi, souvent chacun dans son coin, cultivant son précaré quelque part. En ce qui concerne les acteurs économiques d'un territoire, n'y a-t-il pas nécessité finalement de les mettre autour de la table pour discuter des projets à long terme ?
Mais complètement, et c'est aussi ça que l'on souhaite proposer, de reprendre le leadership. La région, elle a déjà ce rôle un peu de coordination.
Économique.
Et on voit bien qu'il y a toujours la concurrence entre les métropoles et la région, parfois entre certains territoires. Moi, je crois que la région, elle doit peut-être prendre une posture aussi plus de coopération que d'entretenir soit la compétition, soit la volonté toujours de prendre le leadership, par contre, de communication. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la communication, c'est les actions. Donc, si on associe tout le monde et qu'on met tout le monde à égalité, je pense qu'on peut arriver à faire de grandes choses dans cette région.
Le Flash Info, tout de suite.
CFM. CFM.
Il est 18h. Comptoir de l'Ours, votre magasin pour vos choix en peinture, décoration et revêtement de sol. La qualité professionnelle au service du particulier. Route de Faro à Villefranche-de-Rouergue, zone de Bel Air à Rodez.
CFM. Vos infos.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron fait un pas vers la reconnaissance de l'implication de la France dans le génocide rwandais. Le chef de l'État en déplacement à Kigali a estimé ce midi que la France n'avait pas été complice de ce crime de masse qui a fait plus de 800 000 morts en 1994, mais qu'elle endossait une responsabilité accablante. Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, estime que la prise de position du président est politique et peu engageante.
Je pense que c'est un message fondamentalement ambigu, pour ne pas dire ambivalent, mais je pense qu'il faut relativiser le problème, d'une part parce que le Rwanda n'est pas le partenaire essentiel de la France en Afrique subsaharienne, comme s'efforce de le faire croire le président Macron, et d'autre part parce que le président Macron est d'ores et déjà engagé dans sa campagne électorale et que l'on voit fort bien que le « en même temps » peut à tout moment se transformer en un grand écart. Donc je pense que nous sommes dans de la communication politique pour l'essentiel.
Emmanuel Macron a aussi annoncé le retour d'un ambassadeur français au Rwanda. À 4 jours de l'ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Et le ministère de la Santé a annoncé ce matin que les créneaux étaient déjà réservables sur les plateformes Internet. Et les rendez-vous, eux, débuteront bien lundi comme prévu. Et les autorités appellent à être patients pour la prise de rendez-vous. Et de nouveaux créneaux seront mis en ligne chaque jour. Inquiétude autour de l'état de santé de Bernard Tapie. Son fils, Laurent Tapie, a indiqué ce matin que l'homme d'affaires était de nouveau hospitalisé. Il lutte depuis maintenant 3 ans contre un cancer. Hier, la justice a refusé la demande de report de son procès en appel dans le cadre de l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. Et puis le tennis, J-3 avant le début de Roland-Garros. Et le tirage au sort s'est déroulé cet après-midi. Au vu du classement ATP actuel et avec le coup de pouce du hasard, Nadal, Djokovic et Federer se retrouvent dans la même partie de tableau. Et voilà pour l'actualité. Bon début de soirée à tous.
CFM. CFM Radio.
Suite de l'édition spéciale Politiquement Votre, spéciale régionale 2021, avec ce soir Kader Youb qui reçoit Antoine Maurice, tête de liste l'Occitanie naturellement.
Oui, Antoine Maurice, une des nombreuses compétences de la région, c'est la formation professionnelle. 80% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Que faut-il faire pour accompagner les jeunes, particulièrement, qui ont été si durement touchés par la crise en matière de formation professionnelle ?
Bien, vous
l'avez... Est-ce que la région, aujourd'hui, fait ce qu'il faut ?
Pas suffisamment, et notamment, vous l'avez dit, dans l'anticipation des métiers de demain. Et ça rejoint ce que je disais précédemment sur la diversification et la conversion. Aujourd'hui, on a besoin de préparer des métiers autour, par exemple, on parle de bâtiments, de rénovation énergétique ou même de construction, mais les artisans d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment formés aux matériaux biosourcés.
Beaucoup d'artisans alertent sur le manque de main-d'œuvre.
Exactement. Et il faut aussi revaloriser ces métiers qui sont des métiers, en plus, qui répondent à des besoins locaux et qui sont donc non délocalisés. Donc nous voulons à la fois investir dans la formation, dans ces métiers, et aussi dans les aides.
Vous ferez comment pour les valoriser, ces métiers ?
Alors, par la...
Métier d'artisanat ?
Déjà, oui, on peut organiser déjà des événements. Il y a tout l'aspect de formation au sortir du lycée, justement, qui prépare à l'ouverture, justement, des métiers, des filières sur lesquelles la région... investi aujourd'hui, mais pourrait orienter davantage sur ces métiers d'avenir. La jeunesse, en plus, quand on la rencontre, moi j'ai la chance, je suis fier d'avoir sur cette liste beaucoup de jeunes, mais pas simplement pour faire de la figuration, qui ont vocation à prendre aussi des responsabilités demain pour prendre en main leur destin. ces jeunes aujourd'hui, ils cherchent aussi du sens. Et moi, je crois que les formations, elles doivent aussi davantage être tournées vers ces métiers qui ont du sens dans le lien. Il y a beaucoup aussi d'enjeux sur la santé et la région a la compétence des formations sanitaires et médico-sociales. Je pense qu'il faut aussi revaloriser ces filières-là au niveau régional. Et puis, en effet, sur tous ces métiers de la transition écologique, que ce soit les mobilités alternatives à la voiture individuelle, que ce soit l'énergie bâtiment, que ce soit le tourisme, justement, vers un tourisme plus équitable, on a des axes d'amélioration sur lesquels la région doit être en avance, là aussi, pour anticiper les besoins de demain.
Vous parliez de la jeunesse. Vous, président, est-ce que vous instaurerez un minimum d'autonomie pour la jeunesse ?
Eh bien, moi, président, comme on le propose dans notre projet, je proposerai l'expérimentation du revenu minimum d'existence.
Conditions de ressources ou pas ?
Alors, c'est justement un revenu par définition, c'est un revenu justement qui n'est pas basé là-dessus, mais comme c'est une expérimentation, vu qu'on sait bien que c'est une compétence d'abord nationale, on veut travailler éventuellement avec les départements volontaires sur des tests autour de, par exemple, 500 jeunes en milieu urbain, quartier populaire, 500 jeunes en milieu rural, par exemple, pour expérimenter effectivement, et 500 étudiants, pour avoir un peu trois types de profils, en fait, mais qui touchent d'abord les jeunes, et pour voir un petit peu les effets qu'aurait ce revenu, qui, j'espère, demain sera aussi porté au niveau national, parce que nous pensons qu'il faut aussi, en effet, permettre à la jeunesse de pouvoir vivre décemment et ensuite préparer son avenir.
L'agriculture et l'eau, notre sujet à venir, l'Occitanie est la seconde région agricole française avec des cultures, notamment céréalières, très consommatrices d'eau et avec un climat qui se méditerranéise, qui s'étend même sur toute la région. L'Occitanie va devoir apprendre à consommer sa ressource avec parcimonie, même si les régions n'ont pas la compétence directe de l'eau. Hein, vous participez au SAGE, au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, mais quelle sera votre politique de l'eau ?
Ben, là aussi, justement, c'est d'anticiper pour pas se retrouver dans une difficulté. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de production, vous l'avez dit, de céréales et autres qui demandent beaucoup d'eau. Il faut là aussi trouver comment diversifier la production. Ben, par exemple, d'ailleurs, dans les filières que nous souhaitons développer, nous, il y a le chanvre que nous aimerions redévelopper dans notre région, qui est une filière qui est utile à plein de niveaux. Ça permet de produire de l'huile de chanvre qui est très bonne pour la santé à manger ou pour des produits cosmétiques. Ça permet aussi de produire de l'industrie textile que l'on pourrait redévelopper sur notre territoire à partir des savoir-faire locaux et à partir aussi d'exemples concrets qui existent. Je prends l'exemple à Figeac de l'entreprise.
Réorienter les cultures en fonction du milieu du climat.
Bien, oui, c'est ça. Et de la même manière, dans la viticulture, on veut travailler justement à permettre la diversification et d'avoir des cépages plus résistants, en effet, par rapport aux dérèglements climatiques, moins consommateurs d'eau. Il faut aussi que, là aussi, en agriculture, comme dans la nature, comme dans l'économie, on diversifie, en fait. Il n'y a pas de secret, il faut diversifier les productions.
Vous ouvrez la porte aux organismes génétiquement modifiés ? Vous
parlez évidemment non.
Vous parlez de variétés plus résistantes.
Oui, mais les cépages résistants, c'est revenir justement d'abord aux cépages historiques du terroir, parce que parfois ils ont été oubliés, ou des cépages qui sont aujourd'hui peut-être utilisés dans d'autres pays, mais qui correspondent à un climat qui évolue dans le nôtre. Et là aussi, c'est la même logique. Plutôt que d'attendre d'être au pied du mur et de nous retrouver dans des désastres potentiels de paysans qui sont déjà en souffrance, nous proposons de les accompagner dès aujourd'hui dans cette diversification pour faire en sorte de répondre à la fois aux enjeux climatiques et à la préservation de la ressource en eau.
La construction des bassines ou des retenues, je ne sais pas comment on pourrait le caractériser, est-ce que vous êtes pour ces retenues, ces bassines que certains construisent ?
Non, parce que c'est une fausse bonne solution, comme ça a été souvent démontré. Par ailleurs, on a des historiques malheureux dans notre région, sans refaire l'histoire de Sivens, quand même, dans le Tarn, qui en plus a démontré au bout que ce n'était pas un projet d'intérêt général et qui a détruit des milieux naturels et des zones humides qui étaient aussi précieuses justement pour l'équilibre, y compris de nos agriculteurs. Donc non, ce n'est pas une bonne solution. Et c'est pour ça que nous préférons donner les moyens aux paysans d'accompagner la mutation vers un modèle d'agroécologie.
Justement, oui, alors on le voit bien, cette question de la préservation de l'eau est étroitement liée à la vision que l'on a de l'agriculture et au projet alimentaire dans un territoire. Est-ce que vous aurez l'ambition d'une production alimentaire relocalisée, de qualité ?
C'est même notre priorité, justement, et c'est là où on aimerait sortir du en même temps, c'est-à-dire qu'il faut que toute la politique régionale, dans les aides qu'elle peut donner, que ce soit auprès des agriculteurs, dans la transformation locale, facilite cette relocalisation de la production. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de productions qui sont exportées et qu'on importe par ailleurs d'autres besoins. Alors qu'on a la chance, vous l'avez dit, d'être une région agricole parmi les plus importantes, dont nous souhaitons favoriser cette autonomie alimentaire qui est un enjeu aussi de sécurité. Aujourd'hui, moi, je veux le rajouter parce que demain, si on manque de ressources naturelles, d'énergie, si on subit une crise énergétique, on risque effectivement de manquer des besoins alimentaires premiers, alors qu'on a la capacité, par la diversification, par la relocalisation, de permettre de favoriser l'autonomie alimentaire pour toutes et tous et bien sûr d'aliments bio, paysans et donc de qualité pour améliorer notre santé.
Est-ce que la région Occitanie peut développer une agriculture à la fois adaptée aux défis climatiques, respectueuse des ressources naturelles et capable de répondre aux besoins alimentaires ? Est-ce que vous pensez que la région en a les capacités ?
Oui, je pense qu'elle en a les capacités. Beaucoup d'études le démontrent, pas simplement sur les écologistes. Je pense à des chercheurs comme le scénario AFTER qui a démontré justement qu'on pouvait sortir du modèle actuel et que c'était bon pour les agriculteurs qui auraient de meilleurs revenus. On redévelopperait des paysans justement dans nos campagnes, donc on redévelopperait de l'emploi local. On produirait une alimentation et des produits meilleurs pour la santé à la fois des sols et de l'eau que l'on préserverait, et puis des humains qui produisent et qui mangent cette alimentation. Donc en fait, c'est bon à la fois pour le climat, pour la biodiversité, pour l'emploi, pour notre santé. Donc moi, je ne comprends pas qu'on ne veuille pas le faire, ou plutôt, je ne me résigne pas à l'idée qu'on cède à des intérêts financiers des grandes multinationales qui ont intérêt à ce que rien ne change. Nous, nous sommes là pour l'intérêt général, et on peut agir.
Myriam Martin souhaite financer la dette des agriculteurs à condition qu'ils entament une reconversion biologique, est-ce que vous dites que c'est une bonne idée ?
Moi, nous proposons dans tout notre programme que des aides qui favorisent toutes les transitions.
Mais on sait que les agriculteurs sont en difficulté, certains sont en très grande difficulté.
Eh bien, justement.
Elle propose de racheter la dette. Est-ce que c'est une idée, une solution que vous prendriez pour vous ?
C'est leur solution. Nous, nous proposons plutôt d'accompagner la transition de leur modèle agricole ou bien aussi d'aider par la commande publique, par exemple, parce que la région aussi, par ses achats, peut être un vecteur de ressources pour les agriculteurs qui produiraient des produits bio, locaux, paysans que l'on souhaiterait acheter. Donc on a toute une série de propositions qui visent à les aider, mais aussi à aider à l'installation, parce qu'on oublie de dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une difficulté à de l'achat du foncier. Oui. Nous proposons, nous, d'avoir justement un office foncier solidaire pour aussi racheter des terres agricoles pour installer.
La SAFER ne fait
Aujourd'hui, la SAFER ne suffit pas. Alors déjà, dans la SAFER, je pense qu'il faudra apporter une volonté politique plus forte pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs maraîchers plutôt que de toujours faire grossir les hectares d'agriculteurs existants. Mais aussi, on peut nous-mêmes faciliter l'installation par le rachat du foncier agricole, ce qui permet à la fois de le préserver et de redévelopper cette agriculture de proximité.
Comment concilier les deux agricultures ? La traditionnelle, la biologique, ou réconcilier finalement ?
Je crois simplement en accompagnant celles et ceux qui sont aujourd'hui dans le modèle
traditionnel,
on va dire, productiviste, mais qui quand même démontrent, et ils le subissent eux-mêmes, pour moi ils en sont les premières victimes, que ça les étrange financièrement par des investissements considérables, qu'ils peinent à trouver des revenus satisfaisants, et qu'au bout, c'est pas forcément de la production qui bénéficie au local et qui est satisfaisante en termes de santé, d'abord pour eux-mêmes, puisque je rappelle que les études montre l'impact considérable du développement des cancers, etc., en lien avec l'utilisation des pesticides. Donc nous voulons les aider à sortir de ce modèle. Il ne s'agit pas de leur dire qu'ils font des choses mauvaises, c'est plutôt de leur dire ensemble, on va changer ce modèle et nous serons là pour vous aider à transformer le modèle agricole.
Est-ce que vous êtes partisan d'un changement de paradigme au niveau des normes ? Quand on sait que nos agriculteurs, les agriculteurs français, ceux d'Occitanie, sont étranglés par les dettes, mais aussi subissent de plein fouet la normalisation qu'ils doivent respecter par rapport à d'autres pays qui exportent leurs marchandises que nous achetons. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de concurrence ? Que vous serez d'accord, par exemple, pour taxer plus fortement les produits que nous importons ici en France ?
Ah, mais c'est clair que par ailleurs, on ne peut pas parler d'agriculture sans se battre au niveau européen. européen. Et d'ailleurs, les régions, de notre point de vue, ont un rôle à jouer au niveau européen oui. par rapport au lien que nous gérons des fonds européens, et notamment les fonds pour l'agriculture, les FEADER. Donc, au niveau européen, il faut se battre pour une autre PAC. Nous, politique agricole commune, nous défendons une autre politique agricole commune qui, justement, favorise cette transition agricole et arrête de subventionner, de donner 80% des aides à 20% d'agriculteurs vers de la production justement céréalière, consommatrice d'eau, qui est visée, qui vise l'exportation et qui ne nourrit pas forcément les humains. Donc, en fait,
c'est un modèle qui est terminé pour vous ?
Pour nous, c'est un modèle qui est terminé, qu'il faut absolument maintenant accompagner, mais de manière résolue, déterminée, tout en étant auprès de celles et ceux qui sont aussi victimes de ce système, parce qu'il est évident que ceux qui ont fait des investissements récents, ils ne vont pas changer du jour au lendemain, donc il faudra peut-être pour certains du temps, mais nous serons à leur côté pour cette transition.
La santé, Antoine Maurice, elle ne fait pas partie des compétences propres à la région, même si, vous l'avez dit, elle peut, sur la formation du personnel.
Notamment. Sur la formation, mais aussi sur la prévention.
Myriam Martin, au travers de la loi 4D, souhaite expérimenter et avoir finalement une vision plus stratégique aux côtés de l'ARS. Est-ce que ça, c'est une vision des choses que vous pourriez partager ?
Moi, au niveau santé, je souhaite qu'on réfléchisse à une amélioration des compétences régionales, c'est-à-dire que dans le cadre d'un nouvel acte de la décentralisation, je suis convaincu que les régions doivent avoir beaucoup plus de poids,
mais avec
une autonomie fiscale et financière. Parce que le risque aujourd'hui, c'est que les régions continuent à prendre des compétences sans avoir les moyens et se retrouvent étranglées parce que l'État se désengage beaucoup, se décharge, mais ne donne pas les moyens.
Nous restons un pays jacobin avec une tradition centralisatrice.
Moi, ce que je souhaite, c'est une réelle décentralisation. Mais en attendant, je souhaite que déjà la région agisse sur la prévention, sur la santé environnementale, autour des mobilités, autour aussi de l'agriculture et donc toute cette préservation de l'air, de l'eau, des sols. Nous avons des leviers par les politiques que nous menons pour améliorer cela et améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité des sols, améliorer la qualité de l'eau, c'est améliorer notre santé. Et je ne veux pas qu'on oublie ça parce qu'il ne faut pas penser que le curatif, la crise sanitaire, elle nous a appris une chose, c'est que les pandémies, elles sont à l'origine de la destruction des habitats naturels, de l'élevage intensif et c'est aussi cela qu'il faut arrêter.
Est-ce que la dynamique, elle est chez vous ?
Je suis convaincu qu'en tout cas, la dynamique est à l'écologie et que c'est bien autour de ce projet, effectivement, qu'aujourd'hui, on est en capacité d'amener des réponses nouvelles. On a vu comment les politiques traditionnelles n'ont pas amené des réponses aux différentes crises. On voit le risque, effectivement, d'un repli vers un vote contestataire dangereux qu'est l'extrême droite qui nous divise. Nous, nous proposons une nouvelle voie. C'est la voie de l'espoir, c'est l'écologie.
Dernière question, Antoine Maurice, si vous permettez. Vous, élu président de la région Occitanie, quelle sera votre première décision ?
La première décision, je crois, ce sera de proposer de voter une délibération cadre qui se donne comme cap que plus aucun euro ne soit donné sans qu'il y ait un impact positif ou neutre sur le climat, sur la biodiversité et pour la justice sociale.
Merci beaucoup Antoine Maurice d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio.
Merci à vous.
Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous le jeudi prochain.
C'était Politiquement Votre, spécial régional 2021. Kader Youb recevait aujourd'hui Antoine Maurice, tête de liste L'Occitanie naturellement, Europe Écologie Les Verts. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur cfmradio.fr, Facebook et YouTube.